Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
À commencer pour un petit coucou à Alerte Féministe. Dans toute la France hier, il y avait des grandes manifestations à Paris, à Lyon et à Bordeaux, avec plus de 4000 personnes qui ont fait une marche contre l'extrême droite. Et donc cette manifestation bruyante, active, vivante et très déterminée a pu dénoncer donc le programme de l'extrême droite qui a bien l'intention d'amenuiser le plus possible le droit des femmes et notamment en privant les associations de leurs subventions comme le planning familial par exemple. Donc cette marche a été très bruyante, très motivée et dans Bordeaux on a pu entendre les percussions, les mots d'ordre, les chansons avec la participation non seulement des organisations féministes, des collectifs, mais aussi de syndicats comme la CGT, la FSU, Solidaire 33, qui ont accompagné ce grand mouvement, cette marche contre l'extrême droite et pour la place des femmes. Et d'ailleurs, des interviews qu'on a retrouvées dans Sud-Ouest, qui pour une fois a fait un article très complet, nous disait bien que pour garantir les droits des femmes, la défense des libertés, l'antiracisme, eh bien, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de faire barrage au Rassemblement national et d'appeler à voter pour le nouveau Front populaire.
Tout à fait, parce qu'il faut qu'on se rappelle tout de même d'où vient le RN et quelles sont ses bases. Le RN qui vient du Front National. Il faut quand même qu'on se rappelle tout ça. Le Front National qui est à la base un parti très proche de groupuscules nazis, il faut quand même le dire comme ça. Donc c'est réellement de l'extrême droite. Et il faut se rappeler qu'au départ, Marine Le Pen était au Front National avec son père, alors qu'il énonçait des idées quand même assez épouvantables. Elle était à ses côtés, elle ne disait rien. On peut se rappeler par exemple de la phrase de Jean-Marie Le Pen sur Durafour, hein, en disant Durafour crématoire. Donc pour lui, c'était un détail de l'histoire, les fours crématoires de la Seconde Guerre mondiale qui ont fait 9 millions de morts quand même, notamment beaucoup de juifs, mais pas que, des ziganes, des personnes LGBT. Voilà, donc nous savons les bases du Rassemblement national, des tendances nazies, extrêmement paternalistes. Donc Marine Le Pen, il n'y a pas si longtemps que ça, était contre le droit à l'avortement, contre les droits LGBT, des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, etc. Donc gens très rétrogrades, et plus que ça même. Donc on sait pourquoi dimanche... Hier, donc les groupes féministes, et pas que, de façon plus large, ont manifesté parce que ces associations et ces personnes sont extrêmement inquiètes de ce qui peut se passer si le RN accède au pouvoir, Graziella.
Alors c'est sûr, puisque de toute façon dans son programme, il a déjà fixé les lignes, et que, alors il y a une tentative de dédiabolisation, mais comme disait un ami portugais qui avait fait... toute la période Salazar et du fascisme au Portugal, il disait non, il n'y a pas de néo-nazis, il y a des nazis, tout simplement. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'ils ont beau ripolliner la surface, dessous, il y a toujours la même idéologie d'extrême droite qui vise effectivement à un pouvoir extrêmement brutal, extrêmement violent, et qui va écraser tout ce qui dépasse. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, vis-à-vis des femmes, on sait très bien que plusieurs députés RN ont refusé de voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. On voit très bien qu'au Parlement européen, c'est pareil. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ne siègent pas quand il y a des votes pour pouvoir être fidèles à leurs propres idées. Mais quand même, pour le Rassemblement national, la place de la femme est à la maison, à faire des enfants. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est quand même en face de choix politiques extrêmement graves. Heureusement et malheureusement, on a une campagne qui se déroule, mais qui est très courte, avec des difficultés aussi à faire le travail de campagne, c'est-à-dire à détailler les programmes des différents partis, et notamment celui du Nouveau Front Populaire. Mais en attendant, il faut vraiment mobiliser, remobiliser et mobiliser pour empêcher ce désastre annoncé.
Oui, n'oublions pas que le RN, Rassemblement National, a uniquement changé son discours et que c'est quand même très étonnant. Il a pris le discours de la gauche, alors qu'il n'arrête pas de taper dessus, en parallèle. Mais comment c'est possible de passer d'idées rétrogrades, haineuses, anti-femmes, enfin pour les, voilà, les femmes sont là pour reproduire, elles ont une fonction de reproduction à leur idée à eux. Les LGBT sont des gens anormaux, on a vu ce qui s'est passé pour, lors du mariage pour tous, la haine qu'il y avait et qui venait essentiellement du Rassemblement National, national et pas que, d'ailleurs ils soutenaient la Brigitte Barjot, la malade là, qui racontait que des histoires hallucinantes et idiotes. Donc voilà, on a vu leur base elle est claire et nette. Comment c'est possible de passer d'idées de haine nazie à des idées qui sont complètement à l'opposé, parce qu'il faut rappeler ce que sont les idées de gauche, ce sont des idées progressistes et humanistes, d'accueil de tout le monde, de partage et de respect de toutes les différences. Donc c'est pas les mêmes choses du tout, on peut pas mettre dans le même panier l'extrême droite et l'extrême gauche, par exemple, ça c'est pas possible, ça n'existe pas.
Non mais ça veut dire que maintenant, de toute façon, Bardella revient sur des points essentiels où il faisait semblant. Hein, sur la retraite à 60 ans, sur l'augmentation des bas salaires, des tas de choses comme ça. Maintenant, il revient sur l'ensemble de ce qui pouvait faire un peu attractif pour les classes populaires. Et puis, il s'allie avec Ciotti et là, il dit on rasera gratis, hein, parce qu'on n'en sait rien. Donc là, il essaye d'amenuiser et tous les arguments qui feraient un peu dissonance et il ment comme un arracheur dedans. Donc je crois que là, c'est sûr qu'on s'approche du 30 juin, on s'approche du moment du vote, on voit quand même qu'il y a des réactions citoyennes aussi, on voit qu'il y a énormément de mobilisation avec des demandes de procuration qui se font par millions maintenant, et qu'il y a vraiment un enjeu, je crois que tout le monde a bien compris, qu'il y avait un enjeu pour les libertés qui est énorme, et que vraiment, il faut que le camp, entre guillemets, de la démocratie se mobilise, s'agite et fasse preuve de sa solidarité aussi avec toutes les minorités.
Et pour les procurations, est-ce que tu sais jusqu'à quand on peut donner une procuration ?
Alors apparemment, il n'y a pas de délai. Alors, on peut le faire à la limite vendredi, jusqu'à la veille du scrutin. Voilà.
Et il faut aller à la gendarmerie ?
Alors, il y a plusieurs solutions. Oui. On peut aller sur Internet, mais de toute façon, après, il faut passer par le commissariat ou la gendarmerie. Oui, voilà.
Important de le dire.
Alors maintenant, on va écouter les interviews qui ont été réalisées par Xavier Ridon lors du lancement de la campagne du Nouveau Front Populaire sur la troisième circonscription.
Carfa Diallo, bonjour.
Bonjour Xavier.
Tu es conseiller régional avec les écologistes donc au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et puis tu es bien sûr le cofondateur et directeur de l'association Mémoire et Partage. On va voir ces deux casquettes avec toi qui ont une importance particulière dans la période que l'on vit actuellement pour avoir aussi ton regard et ton analyse sur ce que l'on traverse. Toi, les élus du Rassemblement National, tu les vois à chaque conseil régional dans lequel tu sièges. Quel est le bilan de leur choix politique ? Bien sûr, ils ne sont pas dans la majorité, on espère qu'ils ne le seront pas, mais en attendant, tu vois les choix qu'ils font. Quels choix font-ils ?
C'est des choix véritablement désastreux. Au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, l'extrême droite, le Rassemblement national est très fortement représenté. C'est plus d'une vingtaine d'élus, que ce soit sur l'éducation, je suis dans la commission éducation, enseignement supérieur et recherche, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'aménagement du territoire. La plupart des projets ou bien des démarches tenues par le Rassemblement national procèdent véritablement de cette même politique que Emmanuel Macron met en place. place, c'est-à-dire une politique de casse sociale, une politique qui est extrêmement dure sur les catégories sociales les plus défavorisées. C'est également une politique extrêmement dure sur la question des migrants et des immigrés. À chaque fois, par exemple, très précisément, où on a des délibérations qui concernent des soutiens à des associations, des structures qui soutiennent ou accompagnent des migrants, ben, on a le Rassemblement national qui est dans cette optique de diabolisation de ces populations, de criminalisation de ces populations et de refus de toute politique sociale. Donc pour nous, véritablement, le Rassemblement national, en tout cas politiquement, de ce que j'en sais depuis 3 ans que je suis au Conseil régional, c'est un mouvement politique qui est totalement archaïque, totalement à l'inverse des valeurs de progrès, d'humanisme que nous défendons dans notre pays.
De l'endroit où tu es, de ce conseil régional aussi où tu sièges, alors certes dans l'opposition au président Alain Rousset, mais de cet endroit aussi où tu as une vision peut-être plus large que la vision bordelaise ou même girondine, qui pourrait presque être à certains endroits, en tout cas pour la Bordelaise, quelquefois privilégiée, puisque peu touchée par ce vote finalement Rassemblement National. Comment toi tu l'analyses et quelles sont les clés pour peut-être trouver des bascules et éviter ce vote pour que la population se dise qu'il vaut mieux pour elle, notamment pour la population défavorisée, voter pour le Front Populaire. Quelles sont les clés d'analyse que toi tu peux avoir?
Il faut d'abord partir de l'idée que le Rassemblement National, son programme, son histoire, sa tradition, c'est véritablement une remise en cause de l'état de droit, de la démocratie et de la République. Je crois qu'il faut partir de ça. Il ne faut pas oublier la tradition dans laquelle ce mouvement politique s'inscrit, dans une tradition de négation, de remise en cause des droits des populations les plus défavorisées. Il faut partir de ce postulat qui me semble essentiel. Et partir de ce postulat, c'est voir que, par exemple, sur des projets aujourd'hui et qui concernent des territoires, par exemple ruraux, à part de l'inclination ou bien d'une politique ou bien de... tu vois, je suis fatigué.
Je vais recouper ta chaise.
Je suis fatigué. Donc, oui, pour moi, le Rassemblement national est effectivement pas en mesure aujourd'hui de pouvoir participer au changement politique, au changement social, au changement économique, et qu'il faut le dire, il faut appuyer sur ce point-là pour que nous puissions le plus défendre les valeurs de liberté, d'égalité qui sont au socle de notre pays, de notre République.
Il y a forcément aussi une thématique, alors qu'on commande peut-être moins médiatiquement, mais qui est tout simplement que le Rassemblement national a une politique qui est raciste et xénophobe. Là-dessus, j'ai deux questions en une, je suis un peu désolé, mais effectivement, comment toi, à travers l'histoire militante que tu as connue, tu as vu aussi cette montée de ce parti raciste? Et puis par ailleurs, comment est-ce que tu analyses le fait que ce soit invisibilisé autant, d'une part certes dans leur discours, mais même médiatiquement?
Mais parce que tout simplement, je crois qu'il y a un système justement médiatique appuyé par le gouvernement français d'aujourd'hui, c'est-à-dire par Emmanuel Macron, qui a tendu à la diabolisation des progressistes français. Et le pendant de cette diabolisation, c'est la banalisation du Rassemblement national et du Front national. C'est clairement l'époque dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que c'est une époque de polarisation extrême des positions politiques et des discours, et cette polarisation, elle se fait effectivement sur une sorte de banalisation d'un discours et d'une pratique raciste et sexiste aussi. C'est-à-dire que le Rassemblement national au pouvoir, c'est les droits de toutes les minorités, qu'elles soient des minorités de genre ou des minorités ethniques, qui seront bafouées, qui seront déstabilisées, qui seront totalement piétinées. J'ai pu moi-même le vérifier, puisque en tant qu'élu à la région Nouvelle-Aquitaine, ma première présence à la séance plénière de la région Nouvelle-Aquitaine a abouti à une attaque en règle du Rassemblement national, donc sur ma présence à cette instance-là. Parce que c'est un parti pour lequel les immigrés, même les femmes, n'ont pas le droit effectivement de participer à la vie démocratique. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on démontre ça, qu'on montre à nos concitoyens la dangerosité. Parce que beaucoup d'entre nous se disent peut-être que finalement ça ne changera rien. Par exemple au niveau économique, et souvent on donne la comparaison avec l'Italie ou Giorgia Meloni, mais c'est au niveau social, au niveau des droits acquis, que véritablement le Front National est un danger pour la démocratie, une menace pour nos libertés. Moi j'étais à la kermesse de mes enfants il y a quelques jours, et véritablement de m'imaginer que l'arrivée du Rassemblement National au pouvoir va instiller progressivement une idée de division, de séparation entre noirs et blancs, entre chrétiens et musulmans, est quelque chose qui est insupportable. Donc je crois que c'est important qu'on se mobilise, c'est important qu'on montre qu'on est en train de vivre aujourd'hui un moment historique où on ne doit rien laisser passer. il faut faire front avec les partis progressistes, tout en étant vigilant à pouvoir mettre en place des politiques qui puissent nous sortir de cette colère, puisqu'il y a une colère quand même qui dure depuis une trentaine d'années, et cette colère, il faut la traiter. Et il faut que cette nouvelle espérance de gauche puisse traiter cette colère-là, et moi j'ai cette conviction, et c'est pour ça que je m'engage ici, auprès de toutes les forces politiques de gauche, pour faire face, et surtout pour pouvoir être au gouvernement et mettre en place une politique réellement de changement de la vie des citoyens et des citoyennes de notre pays.
Ce Front populaire, il est parmi les candidatures qui vont de Philippe Poutou à François Hollande. On est quand même là sur un arc de gauche quasi complet. Il manque juste lutte ouvrière peut-être. Et bien sûr, la gauche a pris ses responsabilités. Je crois que c'est quand même ce qui ressort beaucoup. Et en même temps, j'ai l'impression, et peut-être que tu partages cela, peut-être que tu l'as vu par ailleurs depuis l'annonce de ce Front populaire, il y a aussi une ferveur et une joie. Là, on est au meeting de lancement de campagne de Loïc Prud'homme. Il y a des enfants qui jouent. Il y a un certain plaisir qui a à se retrouver, à trouver un chemin commun. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu revoir aussi à d'autres endroits ?
Absolument, absolument. La dynamique aujourd'hui, c'est une dynamique extrêmement vertueuse et forte. Oui, on peut effectivement pinailler en cherchant les incohérences qu'il y a dans les compositions, notamment dans les investitures aux élections législatives. Mais dans le fond, qu'un mouvement politique, que tous ces mouvements politiques, quand même divisés il y a quelques semaines sur un certain nombre de sujets, arrivent à se réunir ensemble, arrivent à mettre en place un programme de gouvernement totalement crédible, faisable, chiffrable et qui peut réellement changer le sort des citoyens. Oui, je pense que effectivement cette dynamique elle est bonne. Il faut absolument la soutenir, et justement par le fait que on a un arc-en-ciel finalement d'investiture qui va, comme tu le dis, de Philippe Poutou à François Hollande, ça montre la diversité de cette gauche et aussi l'idée que ces hommes politiques, malgré leurs différences, se retrouvent sur la nécessité de préserver le modèle français, le modèle social, le modèle politique, le modèle démocratique qui aujourd'hui est menacée, et pour cela je pense que cette dynamique, il faut la garder, elle est bonne, il faut être le plus mobilisé possible. Moi je le sens partout, en tout cas où je vais, parce que je vais soutenir tous les candidats que je connais dans notre département pour démontrer que notre monde est possible et que la vie des Français, elle compte. On ne peut pas seulement s'en remettre à la brutalité que nous promet le Front National et le Rassemblement national. On ne peut pas renoncer à ces valeurs que nous portons depuis si longtemps.
Une dernière question, Carfa. Tu vas aller le 22 juin prochain à Angoulême. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on disait la question de l'invisibilisation, elle est importante. Il ne faut pas invisibiliser ce nom. Alhoussène Camara, qui est-il ? Pourquoi lui rends-tu hommage le 22 juin ?
Mais c'est absolument essentiel de lui rendre hommage. C'est le collectif Justice pour Alhoussène qui organise pour les 1 an de la mort brutale, violente, inadmissible de ce garçon. C'est le collectif qui organise ce rassemblement, cette marche à Angoulême. C'est une marche pour demander justice pour Alhoussène. C'est un garçon de 20 ans, entré en France comme mineur non accompagné, bien formé, qui était en apprentissage, qui à 20 ans, à 4 heures du matin, croise une escouade de la police et qui se fait tirer dessus par la police sous le fallacieux prétexte, encore une fois, de refus d'obtempérer. Et on a vu depuis une mobilisation importante autour de lui. Moi, dès les débuts de cette affaire, c'est-à-dire le lendemain du 14 juin 2023, je suis allé sur les lieux du drame. Avec un certain nombre de collectifs, on s'est battu pour que cette affaire-là ne soit pas non plus effectivement invisibilisé, d'abord parce que c'est la province, hein, puisque c'est à Angoulême, c'est pas Paris. Ensuite, c'est quelqu'un qui est migrant, il n'a pas de famille ici, et c'est vrai que cette mobilisation a permis aujourd'hui à ce que des enquêtes puissent être faites par un certain nombre de médias, que le policier qui l'a tué soit mis en examen. Je me suis même rendu à Conakry, en Guinée, auprès de sa famille, pour présenter mes condoléances à cette famille et pour lui dire que tout ce que nous pourrons faire pour que justice soit rendue à ce garçon sera fait. Donc oui, le samedi 22 juin, c'est essentiel que nous soyons tous à Angoulême pour dire que l'impunité, justement, que nous promet le Rassemblement national, c'est une impunité de la police. Voilà. C'est une autorisation de tuer. Véritablement. Et ça, il faut que ça cesse. Beaucoup trop de jeunes aujourd'hui, et malheureusement migrants, noirs, arabes, musulmans, tombent de ce fait-là. On a même le défenseur des droits qui, il y a quelques années, 3 ou 4 ans, attesté qu'on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler si on est noir ou si on est arabe, de se faire brutaliser. Moi-même, j'en ai été victime quand je me suis battu contre le quartier La Négresse de Biarritz. Donc oui, cette mobilisation est importante. Cette invisibilisation, elle est toujours là. On sent quand même que dans cette société, il y a un racisme qui est vraiment bien ancré, qui est quand même un peu systémique, il faut le reconnaître, mais on travaille à le lever. Hein, et c'est l'objet de tous les engagements que nous avons, politiques, mais aussi associatifs.
Merci Kerfa Diallo. Je rappelle que tu es conseiller régional des écologistes au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le cofondateur, bien sûr, de l'association Mémoire et Partage. Merci beaucoup à toi.
Merci, merci Xavier Ridon.
Alors, on est toujours dans le plat de résistance des vieux fourneaux et aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés par Octave et Camilla qui font leur stage à la Clé des Ondes. Et maintenant, nous allons passer à l'interview suivante.
Stéphanie Enfray, bonjour.
Bonjour Xavier.
Conseillère municipale à Villeneuve-d'Ornon pour le Parti Socialiste et puis donc présente bien sûr à ce lancement de campagne pour le Front Populaire. Déjà peut-être avoir ton sentiment sur ce qui se passe entre ben, forcément l'inquiétude que dans deux semaines le Rassemblement National puisse être vraiment très haut et puis il y a peut-être quelque chose qui se passe à gauche aussi, un sursaut.
Il y a à la fois bien évidemment l'inquiétude face à ce coup de poker, on ne sait pas trop comment l'expliquer, du président, et de l'autre on le voit, que ce soit la manif de samedi, et puis le programme, et l'union bien évidemment, il y a un espoir. Voilà, un espoir, et puis il y a un beau programme, comme je l'ai dit, c'est 150 positions, et c'est vraiment aussi dans le quotidien, on est sur les questions sociales, sur les questions écologiques, il y a des éléments en matière de financement, donc voilà, on y va et on y croit.
Même un soir où il y a un match de l'équipe de France, il y a quand même plus de 200 personnes qui viennent écouter les discours des politiques. Donc c'est un peu l'espoir aussi.
Et qui restent en plus, parce que voilà, c'est...
Le match a déjà commencé quand on fait l'interview.
Voilà, donc non, on sent qu'il y a une envie, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, il faut qu'on se mobilise, qu'on appelle les gens à voter, à faire voter, et puis qu'on s'engage sur les deux premières semaines, et même encore après. Parce que je pense que pour tous les partis politiques de gauche, c'est aussi... On le voit, on est appelé entre guillemets dans les fédérations, il y a des adhésions, c'est une réalité.
Alors bien sûr la troisième circonscription de Gironde, c'est peut-être pas la plus menacée, que ce soit nationalement ou localement bien entendu, mais en même temps, toi tu as pu voir sur ta commune, sur Villeneuve-d'Ornon, des évolutions, des votes, le Rassemblement National est arrivé en tête aux européennes, et l'autre élément qui est évident, c'est bien sûr celui de l'abstention. Comment toi tu as analysé qui ne vote pas, qui vote pour le Rassemblement National, qu'est-ce que tu analyses? Parce que là aussi il y a des clés de compréhension probablement, pour plein d'endroits en France, de ce qui se passe à Villeneuve.
On a effectivement, si on regarde la circo, qui, alors on aimerait que ça se passe d'ailleurs dans la circo quand même, partout en France. Oui. Voilà, je veux dire, potentiellement, il n'y aura qu'un tour. Mais on
Clément Rossignol, Puège, voilà, aussi, voilà. J'allais le dire, promis peut-être, pronostiqué plutôt, en tout cas, le passage en un tour. Voilà.
Donc ça serait formidable, mais oui, quand on regarde Talence, Bègle, on a la gauche en tête, et puis à Villeneuve-d'Ornon, effectivement, on est, alors si je prends le Parti Socialiste Place Publique, on est en deuxième position, mais j'ai bien dit en deuxième, c'est-à-dire qu'en tête, sur Villeneuve-d'Ornon, c'est effectivement le Rassemblement National. Et quand on regarde par rapport, par exemple, à Talence, sans nul doute, on n'a pas la même sociologie, ça joue. On n'a pas aussi peut-être les mêmes problématiques. Tout à l'heure, ça a été évoqué par plusieurs d'entre nous, la question de qu'est-ce qui explique ce vote RN, la question de la colère ou peut-être d'un sentiment d'abandon. Et ça, on peut, par exemple, par rapport aux services publics, ça peut jouer. Voilà. Donc la question sociale, la question du pouvoir d'achat, la question de sentiment d'abandon, c'est des éléments qui contribuent à alimenter le Rassemblement National.
On sait qu'effectivement, Villeneuve-d'Ornon, il y a le bourg, il y a les quartiers populaires qu'il y a à Chambéry, et puis il y a d'autres quartiers également, en fait, un peu populaires, qui sont là plus étalés, plus au sud de Villeneuve. C'est trois sociologies différentes.
Il y a trois sociologies différentes et il y a une vraie mixité sociale aussi, finalement, qu'on peut observer sur Villeneuve-d'Ornon. Et c'est vrai que du coup, cette mixité, mais à travers différents quartiers, ça se retrouve quelque part dans le vote. Et dans tous les cas, ce vote RN sur la commune, il sort pas, c'est un peu familier, mais il sort pas du chapeau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a vu aussi monter au fil de scrutins présidentiels, législatifs, départementales, voilà.
Et comment, quand on est élu local, alors dans l'opposition c'est peut-être beaucoup plus compliqué aussi, mais comment on arrive à se dire quels sont les outils possibles pour essayer de lutter? L'union s'en est une, j'imagine.
L'union s'en est une. La question aussi des services publics de proximité, la question aussi d'avoir un programme de gauche.
Voilà, tu disais l'école gratuite tout à l'heure, tu parlais de l'école gratuite, pour toi c'est quelque chose qui est aussi entendu et qui peut permettre à des mamans, des parents de souffler.
C'est l'école gratuite, alors bien sûr c'est bien évidemment ce qu'on évoquait tout à l'heure, financé par l'État bien évidemment. L'école aujourd'hui, elle est gratuite, mais elle n'est pas effectivement gratuite, c'est-à-dire que ce qui est gratuit, c'est les fournitures qui sont communes. Voilà. Par contre, ce qu'on va avoir dans notre cartable, qui est individuel à chacun, la question de la restauration scolaire, la question des transports, ça joue. Alors, à Villeneuve-d'Ornon, on est dans un territoire métropolitain. Là, bien évidemment, c'est pas la même chose. Mais par exemple, quand on est en territoire ruraux, la question des transports, ça joue. La question de l'internat, même. Faut pas oublier, et puis je reparle de la restauration, comment peut-on étudier dans de bonnes conditions si on n'accède pas à la restauration? Alors, ce qu'on observe, en fait, c'est que dans le premier degré, les parents ou les politiques publiques font que le premier degré... Les enfants y vont. Collège, on voit là aussi, on ne veut pas laisser notre enfant tout seul. Mais ce qu'on observe au lycée, on est autonome. Eh bien, quand on regarde où est-ce qu'on mange le plus à la cantine, enfin la restauration scolaire, eh bien, en fait, c'est dans les territoires où il y a ce qu'on appelle de la gentrification, c'est-à-dire là où on a les populations les plus aisées, les familles les plus aisées. Voilà, c'est là qu'on mange le plus à la restauration.
Alors comment l'analyser ?
Eh ben parce que la cantine, les familles, ça va être dans la balance. Tu manges tout seul ou tu te débrouilles. Et c'est là qu'en fait on touche aussi la question de la malbouffe, parce que qu'est-ce qu'ils mangent ? Et vous avez remarqué que souvent, malheureusement, à côté des établissements scolaires, c'est pas parce qu'ils choisissent de s'implanter là, hein, mais très souvent, si je prends Vaclav-Havel, à côté de Vaclav, on a un supermarché. Et en fait, vous allez avoir des jeunes qui vont aller acheter un paquet de chips, une bouteille de coca. Et ça sera leur déjeuner.
Et donc, pour essayer de lutter contre ça aussi, ce programme va avoir son utilité.
Voilà, exactement. Et accompagner les collectivités pour mettre en place la gratuité.
Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie Enfray.
Merci, Xavier. Au plaisir.
Séria quem falou, você tava mais querendo era me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ouvir cantar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ouvir cantar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você sorrir, pra você chorar, pra você sonhar, pra você feliz, pra você amar.